Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3. Épître aux Éphésiens au chapitre 3. Mais juste avant, j'aimerais vous dire un secret. Êtes-vous prêt à l'entendre? Est-ce que vous avez entendu? Juste avant, j'aimerais vous dire un secret. Un secret. C'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose que l'on veut savoir. C'est quelque chose dont certaines entreprises font leur force pour ne pas révéler leur recette qui fait fureur auprès peut-être des jeunes et des moins jeunes. Le secret d'une crème révolutionnaire, le secret d'une boisson pétillante, le secret d'un hamburger préféré, le secret de plein d'autres choses. Un secret. Ça ne se révèle pas, ça se garde. Et parfois même, les secrets peuvent faire du mal. Les secrets de famille, par exemple. Ce que l'on refuse de dire, ce que peut-être est honteux, tellement honteux qu'on n'ose pas en parler. Les secrets. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un secret. Mais contrairement à quelque chose que l'on ne veut pas révéler, que l'on veut cacher, eh bien ce secret-là, il n'est pas à cacher. Ce secret-là, la volonté de Dieu, c'est qu'il soit révélé à tous, que tout le monde le connaisse, que tout le monde le sache, que tout le monde connaisse ce mystère qui a été caché pendant un temps et qui maintenant mérite d'être révélé, d'être connu. Et ce secret, je vous invite à en faire connaissance dans la lecture de ce matin, Éphésiens au chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et ont part à la même promesse par le moyen de l'Évangile. C'est de cet évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce, par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi le plus petit de tous les membres du peuple saint que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, enracinés et solidement fondés dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui par la puissance qui agit, à celui qui, par la puissance qui agit en nous pour réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Seigneur, nous voulons encore nous soumettre, Seigneur, à ta parole ce matin, être attentif, Seigneur, à ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux nous apprendre, Seigneur, de toi. Parle à nos cœurs, comme tu veux nous parler. Amen. On continue donc notre série sur l'Épître aux Éphésiens. Et Paul, qui est l'auteur de cette épître, a commencé à décrire toutes les bénédictions que Dieu donne en Jésus-Christ, que les Éphésiens, mais nous-mêmes, avons en Jésus-Christ. Et il va détailler au chapitre 2 combien ces bénédictions ne sont pas seulement pour les Juifs, mais elles sont pour tous. Elles sont non seulement pour les Juifs, mais également pour les païens, et par conséquent pour nous-mêmes. Ces bénédictions sont pour tout le monde. Et afin qu'il n'y ait plus, en fait, de séparation entre Dieu par Jésus-Christ, Jésus ouvre cette voie, cet accès à Dieu, et qu'il n'y ait plus de séparation entre les uns et les autres. Là où la loi mettait une séparation entre les Juifs et les païens, Jésus-Christ vient non pas abolir la loi, mais l'accomplir pleinement. Et c'est ainsi qu'il peut, eh bien, être le moyen de réconciliation entre les peuples. Qu'il peut non plus être, qu'il n'y ait plus de séparation entre les peuples, mais qu'il y ait une communion entre les peuples, une unité entre eux. Et c'est cette révélation dont Paul parle dans ce chapitre 3. Ce secret, cette union avec Christ. Ce secret dont il dit qu'il était caché pendant un temps. Les Juifs n'en avaient pas connaissance, même s'ils pouvaient peut-être avoir peut-être une idée. Quand Dieu, dans le Nouveau Testament, parle à Rahab, vous connaissez Rahab, cette païenne de Jéricho, quand Dieu parle à Ruth et il agit particulièrement pour elle, quand Dieu parle aux Ninivites dans le livre de Jonas, mais si Dieu leur parle à ces païens, ils n'ont pas encore totalement accès à toutes les promesses. Ils n'ont pas du tout même accès aux promesses dont Israël a part. Ils en sont séparés. Par Jésus-Christ. Par la venue de Jésus-Christ. Il n'y a plus de séparation. Plus de séparation entre juifs et païens. Et là où il y avait accès seulement pour le peuple d'Israël, cet héritage est également pour chacun d'entre nous. Un héritage pour tous. Et l'apôtre Paul a tellement envie que ce secret soit connu, que cette révélation dont il a eu le privilège de connaître, soit révélé aussi à d'autres. Il a tellement envie que cela soit connu de tous qu'il interrompt son discours. Vous voyez, au début du chapitre 3, il commence « C'est pourquoi ?» C'est pourquoi moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les non-juifs, et il s'arrête. Il veut prier pour eux en conséquence de cette révélation, mais il voit que, et il veut insister pour que cette révélation puisse non seulement être connue, mais être comprise par tous. Et c'est pourquoi il insiste des versets 1 à 13 sur cette révélation. Il veut que tout le monde sache, non seulement parce que c'est important pour lui, lui qui était juif et dont Dieu a parlé particulièrement pour aller parler aux païens, mais parce qu'il veut aussi que cela soit important pour nous, afin que nous puissions saisir cette révélation, saisir l'action de Jésus-Christ, saisir que ses promesses sont également pour nous. Pas seulement qu'on en ait conscience, mais qu'on les vive. Quelle est la conséquence de savoir que Jésus-Christ est mort pour moi ? Qu'il a donné sa vie pour moi, qu'il me donne accès au royaume de Dieu. Quelle est cette conséquence pour moi? Cela n'est pas seulement réservé à une élite. Cela n'est pas réservé à seulement à des initiés. Mais cela est pour chacun d'entre nous. L'œuvre de Jésus-Christ est pour chacun d'entre nous. Afin que je puisse avoir accès à Dieu, afin que je puisse avoir le pardon de mes péchés, afin que je puisse reconnaître que j'ai besoin de Dieu pour ma vie, afin que je puisse saisir sa bonté, sa miséricorde, sa grâce, afin que je puisse saisir également son action, sa puissance. Afin que je saisisse que cela n'est pas seulement que pour moi, mais que d'autres aussi ont besoin d'entendre ce message. Et c'est pourquoi Paul s'arrête. Parce qu'il veut que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit entendue et connue de tous, soit comprise par tous. S'il a révélé ces choses par son esprit à moi, il peut aussi le révéler à toi. Tu peux aussi saisir cette révélation. Voilà ce que Paul dit. Ce mystère, cette révélation qui était cachée, interroge aussi pas seulement ceux qui viennent d'en faire connaissance, mais elle interroge les autorités, les puissances du monde céleste. Les anges posent leur regard sur l'Église et la regardent. Les anges sont interrogés de ce qu'il se passe. S'interroge de voir comment Dieu agit et a agi par l'œuvre de Jésus-Christ. Là où il y avait séparation, là où il y avait juste un peuple qui était choisi, là c'est pour tout le monde. Et c'est ce qui va amener Paul à cette prière. À cette prière qu'il fait à partir du verset 14. Cette prière qu'il a commencée et dans laquelle il s'est arrêté. Cette prière, on va la relire ensemble à partir du verset 14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous pour réaliser au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Paul veut que chacun d'entre nous puissions saisir l'œuvre de Jésus-Christ. Là où la révélation qui était donnée au peuple d'Israël étaient des lois, étaient un temple, où toute l'adoration se faisait dans ce temple, où il fallait respecter tout un tas de rites pour pouvoir accéder à Dieu. En Jésus-Christ, tout cela s'arrête. Parce que Jésus-Christ, par sa mort, par son sacrifice à la croix, eh bien, répond à toutes les exigences de la loi. Jésus-Christ, par son œuvre à la croix, répond à toutes les exigences de Dieu pour mon péché. Il n'y a plus besoin de sacrifier un agneau, de le faire de telle ou telle manière, pour pouvoir accéder à Dieu. Jésus-Christ répond à tout cela. Et ça va plus loin encore. Là où il y avait besoin d'un temple, il n'y a plus besoin de temple. Puisque le Saint-Esprit que Dieu a envoyé fait de nous son temple. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et cela n'est possible que par l'œuvre de Jésus-Christ qui est mort, mais qui n'est pas seulement mort, mais qui est ressuscité et qui est reparti auprès du Père et qui est dans le ciel. Et c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il est reparti dans le ciel qu'il a pu envoyer son Saint-Esprit, qui fait en nous sa demeure. Et Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, veut habiter dans chacun d'entre nous, veut faire de nous sa demeure. Et c'est l'objet de la prière de Paul. Que Christ habite dans votre cœur. Est-ce que ce matin, je peux dire que Christ habite dans mon cœur? Je peux le dire, mais parfois peut-être mes attitudes, ma manière d'être et d'agir montrent peut-être le contraire. Je peux dire que j'ai la paix en Jésus-Christ, mais être stressé et montrer du stress et que ce stress se répande sur tout le monde. Dans ma famille. Je peux dire que j'ai la joie, mais arriver et puis ne pas montrer cette joie. J'ai la joie. Je peux dire que je suis en Christ et montrer tout le contraire. Paul prend le temps de prier, de ne pas prier pour lui-même, mais de prier pour les Éphésiens et pour tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Et il fait cette prière particulière pour que les chrétiens, ceux qui disent appartenir à Jésus-Christ, puissent saisir, prendre pour eux toutes les bénédictions que Jésus-Christ a acquis pour eux à la croix. Et qu'ils les prennent et qu'ils disent « c'est pour moi ». Toutes ces bénédictions que l'on a lues dans le chapitre 1, tout ça, c'est pour toi. Tout ça, c'est pour moi. Et de vivre en conséquence. Afin que Jésus ne soit pas seulement un visiteur dans mon cœur, mais qu'il en ait toute la place. Imaginez qu'il y ait une rupture des canalisations dans cette église. Toutes les portes sont fermées, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'eau va commencer à venir et à remplir, et voire même à un moment donné à déborder. Et bien voilà ce que Jésus veut faire dans notre vie. Il veut remplir tout le vide de notre cœur. Il veut être là, présent dans toute notre vie, jusqu'à en déborder, jusqu'à ce que ça se voie. Quand je te rencontre, je dois voir. Quand tu me rencontres, tu dois voir. Être pleinement conscient que si Jésus-Christ est venu sur cette terre, il ne l'a pas fait parce qu'il voulait, voilà, c'était fait de toute éternité. Il l'a fait dans un but précis, parce qu'il s'inquiète de moi. Parce qu'il s'intéresse à moi, parce qu'il veut mon bonheur. Il veut que je sois à l'état dans lequel il m'a créé à l'origine. Quand Dieu nous a créés, il nous a fait pour lui. Il veut que nous puissions lui ressembler. Il veut que l'on soit comme lui. Il veut que nous puissions comprendre conscience qu'il nous aime. Et il ne veut pas seulement qu'on le sache là, mais il veut que ça soit enraciné dans notre cœur, enraciné dans mes pensées, au point que quand je passe par des difficultés, eh bien, je ne sois pas arraché dans ces difficultés. Imaginez un arbre, une plante, le vent souffle. Cette plante, eh bien, si elle n'a pas beaucoup de racines, elle va s'arracher complètement. Elle va même s'envoler. Mais imaginez cet arbre dont le vent souffle sur lui et cette arbre qui a ses racines et qui s'accroche. Eh bien, cet arbre-là, eh bien, va devenir fort, enraciné, et ne va plus bouger. Il ne va même pas s'envoler. Eh bien, voilà le désir de Paul pour chacun d'entre nous. Voilà même le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Que nous puissions être solidement attachés à son amour. Que je ne doute pas de son amour. Oui, mais Seigneur, tu m'aimes quand tu m'enlèves mon travail. Seigneur, tu m'aimes quand je passe par des difficultés comme ça. Seigneur, tu m'aimes quand il y a cette maladie-là qui ronge mes os. Oui, je t'aime. Seigneur, tu m'aimes. Et pourquoi tu permets ça? Je t'aime. Voilà cette vérité qui doit être ancrée dans notre cœur. Voilà cette vérité qui était ancrée dans le cœur de Paul. Paul, quand il écrit cette lettre, vous l'avez remarqué, il est où? Il est en prison. Et il pourrait dire, je suis en prison, priez pour qu'on me libère. Il dit même pas ça. Il dit, c'est un bienfait que je sois en prison, c'est parce que, voilà, Dieu a agi ainsi pour que vous puissiez vous appuyer sur mes souffrances. Ça contribue à la gloire de Dieu. Dieu agit au travers de ça. Et gloire à lui. Ne perdez pas courage parce que je suis en prison. Au contraire, réjouissez-vous. Waouh! Est-ce qu'on est à même d'avoir la pensée de Paul et de se réjouir quand on passe par des temps difficiles, des difficultés? Est-ce qu'on est à même à se dire ben, « Dieu a voulu ainsi. Dieu a peut-être prévu quelque chose de meilleur. » On a chanté tout à l'heure « Béni soit son nom. » Même dans la maladie, dans la souffrance, même dans toutes les situations, « Béni soit ton nom. » Pour arriver à dire ça, il faut que Dieu se révèle à mon cœur. J'ai besoin de cette révélation qu'il m'aime. Tant qu'il m'a pas, tant qu'il ne s'est pas révélé à mon cœur, tant qu'il a pas, tant que ce n'est pas passé de l'intelligence à là, je serai tout le temps ballotté. Je serai tout le temps en train de mettre en doute et en question ce que Dieu fait. Je serai tout le temps à dire « Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ?» Paul prie pour que nous puissions saisir par la foi, que nous puissions comprendre que Dieu nous aime et qu'il a mis tout son amour dans son Fils Jésus-Christ pour nous et que nous puissions saisir toutes les richesses. Mais que ces richesses, nous ne les gardions pas pour nous, mais que nous puissions aussi les donner à d'autres. Si Dieu me sauve, si je suis conscient de son amour pour moi, je ne dois pas garder cet amour pour moi, mais l'autre doit aussi l'entendre. Mes voisins doivent l'entendre. Mais pas seulement mes voisins. Dois entendre, voir. Cela fait un an que l'on est ici dans l'église. Eh bien, qui est au courant qu'il y a une église? C'est juste des questions, d'accord? Qui est au courant qu'il y a des chrétiens dans cette église qui louent le Seigneur? Qui est au courant qui est le Seigneur? Qui sait ce que Jésus-Christ a fait pour lui? Qui sait qui a besoin du Seigneur pour être transformé dans sa vie? Voilà des questions auxquelles nous devons nous poser en tant qu'Église. Mais ensuite, qu'est-ce que nous faisons pour que d'autres puissent connaître? La première des choses que Paul fait, c'est prier. Mais la deuxième, et on voit qu'il s'arrête. Non seulement il prie, mais il agit. Cette vérité dont je vous parle, elle est tellement importante pour lui qu'il veut qu'on la comprenne, qu'on la saisisse et qu'on la vive. Alors il se prend le temps de l'expliquer. Eh bien, ça doit être la même chose pour chacun d'entre nous. Si Jésus-Christ a fait cette œuvre en nous, eh bien, non seulement je dois pouvoir la vivre, mais je dois pouvoir avoir le désir de l'expliquer à d'autres. Mais je dois aussi prier pour les autres. Et je crois que ça commence aussi par là. Que cette prière de Paul soit pas seulement la prière de Paul, mais soit aussi la mienne. Et ça commence peut-être par de prier les uns pour les autres selon cette prière. Et j'aimerais vous lancer un défi cette semaine. Reprenez les versets 14 à 20. Lisez-les chez vous et priez. Prenez une personne, prenez pas des millions ou des milliers ou des centaines. Prenez juste une personne et dites, voilà, je vais prier pour cette personne, particulièrement ce matin, et ce matin encore, ou peut-être ce midi, ou peut-être ce soir. Et peut-être pour les plus courageux, eh bien, vous allez prendre, on est dimanche, jusqu'à dimanche prochain, il y a combien de jours ? 7. Eh bien, je vais prendre 7 personnes. Et je vais prier pour 7 personnes dans l'église. Tiens, je vais prier pour Ève. Tiens, je vais prier pour Daniel. Tiens, je vais prier pour Isabelle. Je vais prier pour Jocelyne. Et ainsi de suite. Prendre une personne. Et c'est ce que fait Paul. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Est-ce que j'arrive à saisir cet amour de Christ pour moi? Je vous le dis personnellement, j'arrive pas à tout comprendre, tout cet amour, combien il est large, élevé. J'ai beau peut-être le chanter, vous connaissez ce petit chant profond et large, mais le saisir et le comprendre, il y a... Et voilà le souhait de Paul. Voilà cette prière que nous sommes invités à faire chacun d'entre nous pour que nous puissions comprendre, saisir cet amour de Christ. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire que Dieu prendra toute la place dans votre vie. Est-ce que c'est notre désir? Est-ce que c'est mon désir ce matin, non seulement pour moi, mais aussi pour mon voisin, que Dieu prenne toute la place dans sa vie? Qu'il n'y ait plus un morceau où il n'y a pas Dieu. Toute la place. Et cela doit nous conduire. Et comme Paul le fait, voilà encore à cette louange, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, qui peut réaliser au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Vous imaginez ça? Des fois, on peut prier pour quelque chose. Et puis, parfois, on peut même oublier sur quoi on a prié. Et puis, on voit la réalisation de sur laquelle on a prié. Et c'est au-delà de ce qu'on avait même pensé. Dieu peut agir comme ça. Et encore aujourd'hui. Dieu peut changer les cœurs, peut changer les vies, peut les transformer. Même la personne qui dit « j'ai pas besoin de transformation ». Même la personne qui dit « j'ai pas besoin de ton Dieu ». J'en veux pas. Dieu peut changer les cœurs. Dieu peut même changer mon cœur, qui est peut-être dur. Dieu peut changer les cœurs. Et pourquoi il le fait ? Par ça. Parce que c'est son désir. Il le fait par sa puissance qui agit afin qu'il soit lui glorifié. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Il peut tout. Le croyez-vous ? Il peut tout. Je vous invite à incliner nos têtes et nous allons prier. Seigneur, à l'instar de l'apôtre Paul, je veux te prier ce matin pour que tu puisses habiter dans le cœur de chacun ici présent. Que tu prennes, Seigneur, toute la place, que tu agisses puissamment dans les vies. Tu sais la personne qui te connaît, tu sais celle qui ne te connaît pas, tu sais celle qui a besoin de te connaître, celle qui a besoin de cette révélation, celle qui a besoin que tu parles à son cœur ce matin et que tu lui présentes tout ton amour, toute ta grâce. Seigneur, agis. Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions vivre pleinement comme tu veux que nous vivions. Que nous puissions saisir combien ton amour est grand, combien ton amour est profond, large. Que nous puissions saisir cet amour pour nous, et que nous puissions non seulement le saisir, mais le vivre. Seigneur, que ça se voit, que on voit, Seigneur, ton œuvre, Seigneur, dans nos vies. Que nous ne soyons pas, Seigneur, des hommes religieux ou des femmes religieuses qui venons dimanche après dimanche, écoutons des cantiques, écoutons la parole, mais ne la mettons pas en pratique. Seigneur, que tu agisses dans nos cœurs. Que tu agisses dans nos pensées, que tu y habites pleinement, comme tu le veux. Te prions pour chacune de ces choses, dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Amen.